Bonjour à tous. Effectivement, ça fait plaisir de se retrouver ici. Ça me fait aussi plaisir de pouvoir méditer avec vous ces magnifiques textes des psaumes qui nous parlent de la création. Parce qu'en effet, quand on est en vacances, je ne sais pas si vous êtes comme vous, comme moi, c'est des moments quand même assez particuliers pour s'extasier devant ce que Dieu a fait, devant ce que Dieu a fait dans sa création, tout ce qu'il a mis en place. Moi, me frappe beaucoup. Et puis, je ne suis pas le premier à être frappé, parce que, comme vous l'avez pu voir, il y a des personnes qui, il y a plusieurs milliers d'années, ont écrit ces chants. C'est des chants, hein, les psaumes, nous, on les lit, mais normalement, on pourrait les chanter. Alors, si on est dans des monastères, on peut les chanter, ça fait ta 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 ta, mais ce n'est pas très rigolo, j'ai essayé. Mais nous, on peut aussi vraiment faire monter notre louange en lisant ces psaumes et puis en les méditant. C'est un peu le but ce matin, on a pu l'intégrer aussi dans le moment de louange, c'est un peu le but. Et maintenant, je vous invite à écouter ou méditer avec moi le psaume 8. C'est un psaume qui m'accompagne depuis plusieurs années, quand je suis notamment dans ces temps de repos, parce qu'il est très inspirant. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et l'assemblée dit Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images qu'il y a derrière moi là. Ça arrive des fois que ça passe dans le 20 minutes ou dans le matin, ou même dans des journaux plus notables comme Le Temps par exemple, ou bien à la télévision. C'est des images qui ont été prises par un satellite qui s'appelle Hubble. Il est déjà assez âgé, mais il fait des photos qui sont pas mal, je trouve. Il n'y a pas Pierre Nort qui est parmi nous, donc il pourrait nous dire quelle est la galaxie qui se cache derrière ces magnifiques images. Moi, j'en ai aucune idée. Je trouve juste que c'est joli, ouais. Assez joli, puis assez incroyable d'avoir accès à ces images. Puis celle-là, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un peu moins poétique. C'est Genève, exactement. Puis c'est Jean-Pierre qui le raconte. T'as bien remarqué, Jean-Pierre. Un petit clin d'œil à Arlette, qui est aussi genevoise. Vous savez de où elle vient, cette photo? Thomas Pesquet, exactement. Puis vous savez qui c'est, Thomas Pesquet? C'est une star de Twitter, Thomas Pesquet. Il a, je ne sais plus combien de millions de followers sur Twitter, parce qu'il envoie des photos un peu tout partout de où il se trouve, parce qu'il est dans la Station spatiale internationale. C'est un astronaute, donc. Et puis, il aime bien envoyer des petites photos depuis le haut du ciel, finalement. Et puis, il regarde la Terre depuis tout là-haut. Il a d'ailleurs même fait un message d'encouragement aux footballeurs avant France-Suisse pour l'équipe de France. Mais ça n'a pas marché. Mais là, on voit aussi la Terre d'en haut. Et puis, quand on regarde ces photos, ça c'est peut-être à des millions ou des milliards d'années-lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer les années-lumière à vos enfants ou à vos petits-enfants. Moi, j'ai essayé pendant ces vacances, c'était assez compliqué à expliquer finalement parce qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Et puis, moi, je ne suis pas sûr que j'y comprenne grand-chose non plus, en fait, quand je parle de millions d'années-lumière. Là, on est certainement dans des ordres de grandeur de ce type-là. Et puis, je leur ai aussi expliqué que peut-être même qu'on voyait des étoiles qui avaient déjà cessé de vivre. Puis alors là, j'ai aussi perdu le fil de mon explication parce que je n'arrivais plus à me dire comment c'est possible de parler de cela. Et pourtant, tout cela, c'est la création de notre Seigneur. Et puis, souvent, on est un peu comme Thibaut et Corentin, là, qui regardent la mer, simplement en exclamation face à ces phénomènes de création qui nous dépassent. Moi, quand je regarde aussi l'horizon marin, je suis aussi un peu dans cet état d'exclamation face à cette créateur, cet infini de la création, puis face au Créateur qui a mis tout ça en place. « Ô Dieu, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » L'être humain, finalement, quand il voit tout ça, il ne peut que s'incliner et faire monter sa louange vers Dieu. L'être humain commence par le dire et finit par le dire « Ô Dieu, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » L'entier de ce psaume que nous venons de méditer, il est encadré par ces deux exclamations. Il y a là une forme de cri, finalement, qui vient du cœur humain pour dire « on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout ce qu'il y a là derrière, mais ce que je sais, c'est que je suis émerveillé par ce que je vois. Ce que je sais, c'est que ça ne me laisse pas indifférent de voir cette création qui s'étale devant mes yeux. » Il y a une exclamation qui ouvre pour moi sur la notion du Créateur, sur la notion de Dieu qui se fait proche de moi. La magnificence du nom de Dieu est une certitude pour le croyant. Contrairement à la place qu'il a, le croyant, dans cette création, et là, ça lui pose question. C'est ce que nous allons voir plus tard. Et cette exclamation, nos dieux, ô Dieu, notre Dieu, ce qui est aussi beau, c'est que c'est une exclamation commune. C'est une exclamation qu'on ne fait pas tout seul dans son coin, c'est une exclamation qu'on fait à plusieurs. Des millions de croyants à travers le monde ont ce même sentiment quand ils voient la création, c'est de dire, ô Dieu, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pas seulement ici à Nyon, pas seulement dans nos familles respectives, mais sur toute la terre, il y a ce cri d'exclamation des croyants qui monte. Cette exclamation est communautaire, et cette exclamation n'est possible qu'à l'intérieur de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple que nous sommes. Toutes les croyantes et tous les croyants que nous sommes sont unis par ce cri, « Ô Dieu, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Qu'est-ce qu'on a à comprendre par ce nom de Yahvé, ce nom de Dieu? Dans tout l'Ancien Testament, ce nom, en fait, il est prévu pour être imprononçable. Il est prévu pour que finalement, on ne puisse pas vraiment le prononcer avec nos propres mots humains. Et ça, ça nous en dit beaucoup sur qui est Dieu et sur comment les croyants de l'Ancien Testament se sont vus par rapport à Dieu. Et ça rejoint exactement cette exclamation du psaume qui se demande « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Il a voulu, le psalmiste, et puis tous ceux qui ont donné ce nom de Dieu, Yahvé, qui est imprononçable, dire par là qu'il y a, par rapport à tout ce qui nous entoure, et notamment la création, quelque chose d'imprononçable, quelque chose qui nous dépasse, et que c'est ce nom-là précisément que l'on adore, c'est ce nom-là précisément en qui on met notre confiance. Il y a quelque chose de très très fort dans le fait que ce soit un nom imprononçable. Ça dit notre place et ça dit notre humilité face à la grandeur des cieux, face à la grandeur de la création. Parce que quand on y pense vraiment, on est dépassé par ce que l'on voit. Et ça a des conséquences très pratiques. Exalter le Seigneur pour cela ouvre vers quelque chose qui est hors catégorie. Dieu, finalement, il est un peu comme l'école du Tour de France, en tout cas certains, il est hors catégorie. On essaye, nous, en tant qu'humains, de tout catégoriser, de tout comprendre avec nos cerveaux plus ou moins bien faits, plus ou moins bien remplis, ça dépend de où on en est. On essaye de mettre tout ça en place, d'avoir un système qui fonctionne bien. Et puis, quand on est face à l'horizon marin, face à ces photos de Hubble ou bien simplement face à ces photos de la station spatiale, on est dépassé. Et ce dépassement, le croyant ou la croyante, il le prend comme une chose éminemment positive, parce qu'il ouvre ce dépassement. Il n'est pas en train de nous asseoir et puis de nous mettre la tête sous le sable. Ce dépassement nous ouvre à plus grand que nous, et ce dépassement nous ouvre à quelque chose de magnifique, le Dieu créateur. Admirer la création nous place automatiquement face à notre Dieu créateur. Admirer la création nous ouvre au-delà de notre petite vie, de nos petits raisonnements, et nous fait découvrir des aspects que l'on ne connaît pas encore. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles caractéristiques du croyant ou de la croyante. Parce que simplement, le cœur, il ne se ferme pas, il s'ouvre vers plus grand que nous, vers notre Père. Et là, on a cette question de... Ça, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Mais c'est intéressant d'avoir cette question qui est au cœur du psaume. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, tout ce qui nous impressionne, tout ce qui nous dépasse, il se pose une question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Là, il y a un pronom interrogatif qui est exactement le même qu'au début du psaume quand on dit « Ô Dieu, que ton nom est magnifique ». Là, il y a aussi dans ce « qu'est-ce que l'homme ?» exactement le même pronom qui est repris. Et le psalmiste, il n'a pas fait ça par hasard. Hein. Les psalmistes, c'est des poètes, donc ils ont construit leur chant, leur louange, d'une manière à ce qu'il y ait ces points de repère. Donc on les voit surtout quand on lit le texte hébreu. Et puis là, s'il est vraiment construit sur cette exclamation au début, cette exclamation à la fin de la magnificence de Dieu, et comme pour un rappel, il utilise le même petit pronom, en hébreu c'est le pronom « ma », pour parler de la place de l'homme là au milieu. Et là, il s'exclame moins, il est moins dans ce cri d'exclamation, il est vraiment dans un cri d'interrogation. Parce qu'effectivement, on ne peut que se poser la question de qu'est-ce qu'on fabrique là au milieu. Qu'est-ce qu'on fabrique, nous, moi, simple être humain, au milieu de cet univers qui se compte en millions d'années-lumière. Qu'est-ce que nous sommes là au milieu? Et je trouve très intéressant que finalement la foi, le fait d'être croyant, ne commence pas par une certitude, mais la foi commence par une question. C'est intéressant, hein? Parce que souvent, les croyants, on est catégorisés comme des gens avec plein de certitudes, puis on vous déroule le programme, brum, puis ça casse un peu le truc. Le croyant, il commence par être étonné de ce qui se passe autour de lui. Il commence par être étonné de tout ce que Dieu a mis en place, ses lunes, ses étoiles, qui nous dépassent complètement. Et là, il ne peut que se poser une question. Mais qui suis-je là au milieu? Qu'est-ce que je fais là au milieu? J'ai intitulé cette prédication « On en est où ?» C'est une autre manière de poser la question « Qu'est-ce que je fais là au milieu ?» Finalement, le croyant est un peu l'antithèse du blasé qui sait tout, qui a tout vu, qui connaît tout. Il est le contraire de cela. Il est celui qui se pose des questions, qui s'étonne de voir ce que Dieu est capable de faire. Et il fait monter vers Dieu, du coup, sa louange, qui le pousse presque naturellement dans ce mouvement d'admiration pour son Créateur. Il y a une petite note que j'aimerais aussi vous donner par rapport à ce verset 5, parce qu'il y a beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a là derrière, ou bien qu'est-ce que le Fils de l'homme. C'est finalement assez simple, il est vraiment à prendre là cet homme, cet être humain, comme étant l'homme au sens général, homme et femme, ou bien le homme avec un H majuscule. Il n'y a rien d'autre à comprendre que ça, que notre statut d'être humain. Et cette petitesse de l'être humain qui se tourne vers Dieu. Et dans un deuxième temps seulement, il y a cette constatation d'être de peu inférieur au Dieu, d'être couronné de gloire. d'avoir la domination sur tous les êtres vivants. Souvent, on a retenu que cette deuxième partie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, mais l'homme, on se considère souvent comme étant finalement le sommet de la création, celui qui maîtrise le tout, qui semble en tout cas maîtriser le tout, qui est loin de le faire. Hein, on le voit avec ces différentes catastrophes écologiques qui nous entourent. C'est très difficile à comprendre dans une société matérialiste ces versets où on est de peu inférieur aux dieux quand toute notre société matérialiste ignore ce que ça pourrait être au niveau de la transcendance. Tant qu'on n'a pas compris qu'on n'était pas au sommet, on va mal comprendre ces versets où on dit qu'on est de peu inférieur aux dieux et que toute la terre nous est soumise. Si on ne garde que cette deuxième partie, on est parti pour être d'une certaine manière dans des comportements extrêmement déviants. Pour la Bible, et on l'a vu avec cette petite histoire des pronoms, cette exclamation face au Dieu créateur et notre statut d'être humain sont intimement liés. Si on est placé au sommet, c'est uniquement par la volonté de Dieu. Parce qu'effectivement, on a un statut à assumer. On n'est pas une créature parmi toutes les autres. On a un statut particulier que Dieu nous a donné. On n'est pas simplement une partie, comme beaucoup de mouvements actuels veulent nous faire croire, du tout, de manière indifférenciée. Dieu nous a donné un statut différent en tant qu'être humain, une conscience différente et du coup une responsabilité différente. Pour l'être humain, pour la parole, pardon, l'être humain a une place particulière dans la création. Il est de peu inférieur au Dieu et couronné de gloire. Et je crois que nous avons à assumer cette différence. C'est finalement une forme de fuite en avant que de se croire juste une place dans le tout, une partie dans le tout de manière indifférenciée. Non, et ça ne correspond même pas à la réalité. On a une place particulière et en plus, de par nos actions en tant que société, en tant que société humaine, le fait est qu'on a une responsabilité particulière dans ce qui est en train de nous arriver. On ne peut pas simplement se mélanger en disant finalement, je m'en lave les mains, je ne suis qu'une partie du tout, ça me dépasse complètement. Oui, il y a un côté qui nous dépasse parce qu'on ne sait pas comment ça se fait que la création soit si belle et si impressionnante. Mais oui, également, Dieu nous a mis à une place particulière et une responsabilité particulière qu'il nous faut assumer. Nous devons nous comporter en être humain responsable face et avec la création. Ce que nous ne faisons pas forcément très bien depuis plusieurs dizaines d'années, tant l'argent a pris une dimension totalisante. Le croyant, donc, ose une réponse en disant qu'il doit répondre de sa responsabilité face à la création. Il n'est pas en train de se dire « qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» et de rester au stade de la question. La parole offre une réponse, et cette réponse, c'est celle de notre statut particulier en tant qu'être humain. Alors si je reprends ma question du départ, on en est où ? J'ai envie de nous dire « on est en premier lieu et en dernier lieu face à Dieu, tout simplement. » Ce Dieu qui nous a mis là où nous sommes, en l'occurrence, ce dimanche matin 8 août, dans l'église de la Fraternelle à Nyon, et ce Dieu qui va nous accompagner dans toutes les étapes de notre vie au quotidien. Quand on se pose cette question, on en est où ? On peut faire une analyse très structurée en se disant, ben voilà les contextes économiques, sociaux, politiques et tout, puis de faire une analyse comme ça qui pourrait être brillante, mais qui ne va pas répondre à cette question fondamentale qu'en tant que croyant, on doit se poser. Le croyant va d'abord se poser la question de quel est son rapport à Dieu, puisque ce Dieu est son créateur et son sauveur. Et je nous invite à commencer chaque matin par cela. Je remarque qu'on le fait beaucoup plus facilement en vacances. C'est une réalité, mais rien ne nous empêche aussi de le faire à d'autres moments. Nous placer simplement face à Dieu, notre créateur, faire monter notre louange vers lui, s'extasier et dire merci pour simplement ce que nous voyons et la vie qui nous est offerte. Et puis, je suis sûr qu'ensuite, on ne pourra qu'agir en être humain responsable et respectueux de la création. Alors soyons toutes et tous bénis dans notre vie de croyant, dans notre responsabilité de croyant, et toutes et tous réjouis face à notre Dieu qui fait des choses magnifiques et qui continue de faire des choses magnifiques dans nos vies. Amen.